Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Une question ou peut-être un espoir, peut-on imaginer un monde sans sida? On s'est interrogé sur ce thème le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Nous avons choisi de consacrer cette émission d'International aujourd'hui à cette question, à cet espoir, en recevant l'une des personnalités mondiales qui œuvre le plus à la lutte contre le sida. Michel Sidibé, merci d'être sur le plateau d'International. Vous êtes le directeur de l'ONU-SIDA, vous êtes secrétaire général adjoint de l'ONU, vous avez été reconnu, consacré, devais-je dire, comme l'une des 50 personnalités africaines qui comptaient le plus. Le Monde, notre confrère Le Monde, vous a classé parmi également les personnalités les plus influentes de la planète, notamment dans ce domaine. Alors nous allons vous interroger avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et avec Sandrine Cabut, spécialiste santé du monde, autour de cet espoir, de cette perspective. Avant de vous poser toutes les questions qu'on a envie de vous poser, nous allons faire un point en quelques chiffres, en quelques images, en quelques mots sur ce qu'est le sida aujourd'hui et sur cette perspective d'espoir.
Plus de 30 ans après sa découverte, il résiste et tue toujours. 39 millions de personnes décimées par l'épidémie mondiale de sida. Mais un vent d'optimisme souffle aujourd'hui, car des progrès considérables ont été réalisés. En 2013, le nombre de décès de maladies liées au sida s'élève à 1,5 million de personnes, soit moins 35% depuis le pic de 2005. On dénombre 2,1 million de personnes nouvellement infectées, soit moins 27%. Enfin, 2,3 millions de personnes de plus ont eu accès aux médicaments antirétroviraux en 2013, sur un total de 13 millions de personnes sous traitement. Pour la première fois, le nombre de nouveaux patients traités dépasse celui des nouveaux contaminés. Et l'on se prend à rêver de vaincre le sida d'ici 2030. Cette stratégie globale peut s'appuyer sur les villes qui, à Paris, se sont engagées pour atteindre, d'ici 2020, des objectifs ambitieux, à savoir que 90% de personnes soient conscientes de leur séropositivité, que 90% d'entre elles soient sous traitement antirétroviral, et 90% avec une charge virale indétectable. C'est-à-dire qu'une personne peut vivre avec le VIH sans risquer de le transmettre à son partenaire. C'est grâce à la thérapie antirétrovirale, devenue plus efficace avec moins de comprimés. Pays le plus touché, l'Afrique du Sud produit ses propres antirétroviraux. Mais le succès du traitement a un revers.
Quand vous regardez les campagnes de sensibilisation, on ne parle plus de transmission du VIH. On ne parle que de traitement, des personnes qui font le dépistage et suivent un traitement, c'est tout. On n'incite plus les gens à rester séronégatifs.
On ne combat pas non plus l'épidémie de la même façon selon les régions et les personnes ciblées. Homosexuels en Amérique du Nord, jeunes filles africaines, travailleurs du sexe en Asie, toxicomanes en Europe orientale ou encore prisonniers et migrants. Autant de populations clés qui nécessitent des efforts sur mesure. Par exemple, grâce à l'éducation ou la réduction des risques. Reste un obstacle majeur, la stigmatisation et la discrimination.
Ces professionnels du sexe ne peuvent pas utiliser de préservatif à cause des policiers qui les confisquent. C'est une forme de torture que nous combattons depuis 20 ans.
Pour espérer un monde sans sida d'ici 2030, le plus grand fossé à combler, c'est celui du dépistage. Car sur les 35 millions de personnes qui sont séropositives, 19 millions ne le savent même pas.
Voilà pour cette réalité aujourd'hui de la pandémie. Michel Sidibé, on va poser la question en termes de spécialiste, mais un monde sans sida dans 15 ans, c'est possible, on peut le dire aux téléspectateurs, dont certains d'entre eux peut-être sont porteurs de ce virus. On dit dans 15 ans, le monde pourra avoir tourné la page.
Oh, merci Philippe, merci Sophie, merci Sandrine de me donner cette opportunité. Moi, je voudrais dire que c'est extraordinaire qu'on soit aujourd'hui ensemble pour essayer de réfléchir à un monde sans sida. Qui aurait cru il y a 30 ans?
Ouais.
C'était la peur, c'était le rejet, la discrimination. Vous vous rappelez, à l'époque, ce qui nous faisait le plus peur, c'était de savoir qu'on était positif. Parce que c'était une sentence de mort.
Porteur du virus.
C'était une sentence de mort. C'était un peu cette peste de l'homosexuel, la maladie de la maigreur. Et aujourd'hui, grâce à l'activisme, il faut le dire, l'activisme à tous les niveaux.
Société civile,
etc. Les scientifiques qui sont venus ensemble, ainsi que les politiques. Ouais. N'oublions pas, on a fait de cette maladie, disons, une question mondiale. Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on a réduit le nombre de décès, on a réduit le nombre de nouvelles infections. On rêve même de dire qu'en 2015, on n'aura plus de bébés qui vont naître avec le sida. Donc, pour moi, on est dans une dynamique qui est vraiment gagnante.
Je repose ma question. 2030, un monde sans sida?
Ah oui, 2030, un monde sans sida est possible. On a aujourd'hui des meilleurs outils de dépistage. On a aujourd'hui une meilleure connaissance de l'épidémie. On n'a plus une épidémie unique, on a une épidémie diversifiée.
Vous diriez qu'elle est sous contrôle, cette épidémie?
Elle n'est pas complètement sous contrôle, mais on peut contrôler cette épidémie en 2030 parce que on a les outils. On sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on met les gens sous traitement très tôt, eh bien, on peut réduire de 96% la transmission.
Sophie Malibaud, RFI.
Tout de même, 19 millions de malades qui s'ignorent encore aujourd'hui. Est-ce que ça, ce n'est pas un véritable risque de retour en arrière? Si rien n'est fait, si on ne met pas un coup d'accélérateur au programme, est-ce que les acquis ne pourraient pas être perdus? Est-ce qu'il n'y a pas encore cette possibilité que les acquis, qu'on puisse avoir un retour en arrière sur cette question?
Je pense que c'est une très bonne question. 19 millions, et c'est pour cette raison qu'on a poussé cet objectif de 90. Parce qu'on s'est rendu compte que 19 millions de personnes, après 30 ans, n'étaient pas capables de savoir s'ils étaient positifs ou pas. Et on sait que les maladies infectieuses, on ne va jamais les arrêter ou les contrôler si on ne connaît pas notre statut. Et c'est pour ça qu'on est en train d'appuyer, de faire en sorte que le dépistage soit plus de routine systématique, qu'on aille vers les communautés, qu'on aille dans les familles.
Qu'est-ce qui l'empêche encore? Il y a des outils qui sont maintenant à disposition. Par exemple, l'autotest, on en parle beaucoup. Il va être bientôt disponible.
On se teste soi-même.
On se teste soi-même. Ça n'est pas une prise de sang. On pique le bout du doigt et on peut tester et avoir un résultat très rapide. Qu'est-ce qui empêche que ce test ne soit pas maintenant universellement répandu?
Vous savez, il y a eu énormément de problèmes avec la stigmatisation, la discrimination. Les gens avaient peur. Donc, on était au départ, on ne connaissait pas très bien cette maladie. Donc, on avait vraiment la difficulté d'amener les gens vers le dépistage de routine. Donc, on garde cette confidentialité, mais maintenant, l'autotest, comme l'a mentionné le ministre de la Santé de la France, je crois que c'est un pas très important.
C'est pas dangereux de découvrir soi-même, sans accompagnement psychologique, qu'on est porteur du virus?
Non,
vous savez qu'il y a une polémique sur
moi, je pense qu'il faut l'accompagnement, il faut aider les gens à garder le contact avec les services de santé, parce que découvrir qu'on est positif est toujours difficile, mais mieux vaut le savoir que ne pas le savoir.
Sandrine Cabu.
Moi, ce qui me frappe aussi, c'est au-delà du dépistage, dont on voit bien qu'il y a aussi des progrès à faire, c'est les personnes qui sont laissées de côté sur le traitement, et notamment les enfants, je crois, dont 1 sur 4 seulement est traité. À l'échelle mondiale,
c'est un échec, c'est inadmissible. On est après 35 ans, on n'a même pas des médicaments adéquats pour les enfants. Les médicaments que nous avons aujourd'hui, les enfants ont du mal à le prendre. Il y a peut-être la plupart ont 60% d'alcool, en tout cas de goût qui fait que les enfants le rejettent. Et la couverture, le diagnostic est très difficile. Donc il faut nécessairement une révolution dans ce domaine-là. Une révolution avec bien sûr les laboratoires et aussi l'accès rapide à ces techniques de dépistage chez l'enfant.
Michel Sidibé, le revers de la médaille, on l'entendait dans l'un des témoignages de ce sujet, c'est de dire maladie sous contrôle, finalement on a gagné, on se protège moins. On devient plus vulnérable.
Non, je crois qu'il faut, il y a pas de place à la complaisance. Il faut continuer à se dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'accélérer nos programmes, de faire en sorte que le maximum de personnes puissent au moins connaître leur statut sérologique et qu'on puisse les mettre rapidement sous traitement et qu'on soit capable à la limite de faire en sorte qu'ils ne transmettent plus le virus. Et ça, je crois que c'est très important, mais pas de complaisance. Parce qu'il faut reconnaître, moi je vais vous dire, on n'a pas gagné. Après 30 ans, on a encore 73%, même dans les pays développés comme les États-Unis, 73% des jeunes filles qui ne connaissent pas le mode de transmission. plus de 60% des jeunes garçons. Donc, il y a tout un travail à faire avec la jeunesse pour continuer à les sensibiliser. Et on le voit d'ailleurs dans les pays européens, une augmentation de l'infection chez les groupes à risque, et particulièrement les jeunes.
Sophie Madibo.
Je reviens sur la question de l'autotest, parce que pour l'instant, il y a un prix. Je crois que c'est à peu près 20 euros pour disposer de ce genre d'outil de dépistage personnel. Qu'est-ce qui est fait pour que ce soit pour que l'accès à l'autotest soit plus répandu?
Vous savez, moi je pense qu'il faut se rappeler, on s'est battu et le sida de la tragédie est devenu en fait une opportunité. Une opportunité pour influencer le débat sur le commerce international. Le prix du médicament, vous rappelez, à l'époque était de 15 000 dollars par personne par an. Aujourd'hui, on parle de 80 dollars par personne par an. Et moi, je suis convaincu que ce test, d'abord, si j'ai bien compris, il sera gratuit lorsqu'il sera mis à la disposition des services, les ONG, les services publics, mais il coûtera peut-être 20 euros lorsqu'on ira le payer soi-même dans les pharmacies privées. Mais je pense que ce prix va aller très vite, très bas, très 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 bas, je pense, là, et surtout avec 90.
Oui, bien sûr.
Personne, 90% des personnes qui devront se faire dépister.
Objectif.
C'est un objectif.
Sans une cabule de monde.
Par rapport aux autotests, vous voulez dire que le circuit en fait sera différent selon le pays et le niveau, qui sera peut-être accessible en pharmacie pour les pays où les gens peuvent se payer,
d'achat local,
voilà, comme le nôtre, et puis que dans d'autres pays, il sera distribué par des ONG. Comment vous voyez les choses?
Mais moi, je crois que ce qu'il faut, il faut se dire, comme on l'a vu avec les médicaments, quand il y aura une demande très forte. Aujourd'hui, on a 19 millions de personnes qui ne connaissent pas leur statut. Pour faire en sorte qu'on puisse atteindre ces 19 millions, il faudra tester, et non pas seulement 19 millions, il faudra tester des millions, des centaines de millions de personnes. Le coût va automatiquement se réduire. Il y aura une compétition, il y aura d'autres mécanismes qui vont se mettre en place pour faire en sorte qu'on puisse négocier les prix. Imaginez, il y a quelques mois de cela, le prix, par exemple, du test pour savoir si on a encore le virus qui est actif dans le sang coûtait entre 60 et 70 dollars. On l'a négocié avec Roche. On a utilisé, bien sûr, l'Afrique du Sud qui a le volume. Mmh. Et aujourd'hui, ce test coûte entre 8 et 9 dollars. Il coûtait il y a 3 mois. Je disais, il y a 3 mois de cela, entre 60 et 70 dollars ce test. Aujourd'hui, il coûte entre 8 et 9 dollars. Moi, je suis convaincu que le marché, le volume, la demande qui va se créer et l'intérêt va faire que les prix vont aller vers la baisse. C'est et très rapidement.
Donc ça, c'est énorme, puisque vous dites que le prix est divisé par 10. Oui. Est-ce que, par ailleurs, on a une idée des autres facteurs pour lesquels les gens ne se font pas dépister? Est-ce qu'il y a aussi encore beaucoup de réticence, par exemple? Et là, le prix n'y fera pas grand-chose?
Ah oui, bien sûr, la stigmatisation, la discrimination. Lorsque vous êtes considéré comme criminel parce que vous n'êtes pas capable tout simplement de venir et de prendre un test, et en même temps et que vous êtes exclu de votre emploi et que vous n'avez pas la possibilité. Et c'est pour cette raison que je disais que des pays comme le Kenya aujourd'hui ont mis en place un tribunal spécifique. Et sur les 2 dernières années, plus de 300 personnes sont venues pour demander un support, un appui, parce que ces personnes continuaient à être exclues de leur emploi parce qu'ils étaient positifs. Donc la stigmatisation, la discrimination, il faut continuer à se battre. Et c'est pour ça qu'on a même utilisé une journée des Nations Unies, le 1er mars, avec Aung San Suu Kyi, qu'on a choisi comme figure contre la discrimination. Et c'est le vrai problème.
Sophie Malibo.
Quelquefois aussi, l'hôpital fait peur dans ces circonstances. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau des États, les États qui pénalisent eux-mêmes l'homosexualité, par exemple, une homophobie d'État qui fait que ces patients-là ne vont même pas jusqu'à l'hôpital?
Ah oui, vous savez, on a l'homophobie, on a 79 pays avec des lois homophobiques. Moi, je trouve que c'est inacceptable pour la simple raison qu'il faut de la compassion, il faut qu'on comprenne que lorsqu'on est malade, on a besoin de soins. et on ne doit pas priver les gens de leurs droits les plus élémentaires d'avoir accès aux soins. Mais c'est, vous avez le cas des personnes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Mais vous avez en Europe de l'Est, juste à côté, vous avez des grands problèmes en Europe de l'Est, en Asie centrale, parce que les personnes qui s'injectent la drogue se cachent. Et ces personnes-là se cachent parce qu'elles sont considérées comme criminelles.
Pour revenir à l'homophobie, vous, comment est-ce que vous voyez votre rôle? Est-ce que, par exemple, quand vous allez en Mauritanie, vous y êtes allé au printemps dernier, par exemple, est-ce que c'est un sujet que vous avez pu aborder? La loi là-bas punit à mort les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Est-ce que, dans ces cas-là, ce sujet, vous l'abordez? Alors, il se trouve qu'il n'y a pas de cas dénoncé, mais il y a quand même une possibilité d'arrêter les gens pour ce motif.
Non, moi je crois que ce qu'il faut dire, c'est que il est vraiment important de faire la différence entre une approche normative et une approche de santé publique. Faire comprendre aux leaders que quelle que soit la personne, quel que soit son statut social, quelle que soit son orientation sexuelle, son droit d'avoir accès à la vie, aux médicaments, à la santé, doit être respecté. Donc ce combat-là, on le mène partout. On fait en sorte que ces voix-là soient portées et que le débat, bien sûr, sur l'homosexualité est beaucoup plus complexe, comme vous le savez.
Monsieur Sidibé, vous parlez des mentalités, de lutte contre la mentalité. Où en êtes-vous avec les communautés ou les institutions religieuses? Il y a toujours, par rapport à certaines d'entre elles, je pense au catholicisme, la condamnation du port du préservatif. C'est une question qui empêche le succès contre la lutte contre le sida.
Vous savez, je vais vous dire, un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est les nouvelles infections parmi les couples stables. On a dans la plupart des pays aujourd'hui une augmentation très rapide des nouvelles infections parmi les couples stables. Plus de 40% des nouvelles infections se produisent là.
Pour quelles raisons?
Oui, bien sûr. Pour des raisons qui sont liées à, tout simplement au fait que aujourd'hui, progressivement, l'infection se confine et on découvre que peut-être la jeune fille qui était sujette d'une violence quand elle avait 15-16 ans découvre son infection quand elle est dans le couple. Mais le vrai problème, c'est que 66% de ces couples sont discordants, c'est-à-dire que le mari l'est et la femme ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, c'est ce que j'ai posé comme question, bien sûr, au Vatican. Est-ce qu'on demande à ces personnes de divorcer? Ah non.
Alors, le pape Benoît XVI n'a pas tellement aidé à répandre l'idée de l'usage du préservatif, c'est bien le contraire. Qu'est-ce que vous attendez du pape François? Est-ce que vous attendez, vous pensez que lui pourrait changer la position?
Moi, je crois que ce qui est le plus important, il faut surtout pas briser les ponts qui existent entre nous et les religieux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au niveau communautaire, ils ont un réseau extraordinaire en termes de dispensation des soins. Ils ont un réseau extraordinaire pour avancer le débat contre la criminalisation et même, à la limite, la stigmatisation. Mais par contre, je suis persuadé que le nouveau pape nous donne des signaux très forts. Et que ces signaux-là, probablement, vont nous amener à avancer sur les questions comme, par exemple, la protection personnelle.
Vous pensez qu'il pourrait autoriser, par exemple, le préservatif?
Moi, je pense que le débat sera là. Je ne suis pas persuadé qu'il va l'autoriser du jour au lendemain, mais le débat s'ouvre. Quand je vois, même au niveau des questions telles que, par exemple, les personnes à risque, comme les questions sur l'homosexualité, énormément de questions aujourd'hui sont portées, et moi je pense. Et surtout aussi, il ne faut pas oublier une chose. Moi, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on ne faisait pas le lien entre l'évidence scientifique et le changement social, eh bien, on n'y arrive pas. On peut avoir le préservatif, il ne sera pas utilisé parce qu'on n'arrive pas à mener cette transformation au niveau de la société pour accepter.
Toutes les religions ont une approche de même nature, de condamner par exemple le préservatif. Vous trouvez les mêmes difficultés relationnelles?
Vous savez, moi je fais une différence entre ceux qui sont sur le terrain, qui s'occupent quotidiennement des populations et qui vivent le problème des populations et ceux qui décident au plus haut niveau.
Merci Michel Zibé. Nous faisons un point d'actualité. On se retrouve dans un instant. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif d'ONU SIDA. Et donc un monde sans SIDA, c'est le thème de cette émission. A tout de suite, point d'actualité. Retour à l'international, nous recevons Michel Sidibes, directeur exécutif d'ONU SIDA, secrétaire général adjoint de l'ONU, et nous parlions au début de cette émission de l'espoir d'un monde sans SIDA d'ici à 15 ans. On voit tout ce qu'il reste à régler. Première question de Sophie Malibaud, notamment sur la dimension effectivement financière.
On arrive bientôt en 2015 à l'issue d'un processus. On a fixé des objectifs de développement pour ce millénaire et beaucoup ne sont pas remplis. Et la santé occupait une place prépondérante. Est-ce qu'avec les nouveaux objectifs, des objectifs environnementaux par exemple, vous pensez qu'on va continuer à mettre le cap financièrement, on va continuer à mettre le cap sur la santé et sur la réduction des pandémies telles que le sida, mais aussi la tuberculose et de même le paludisme?
Vous savez, moi je crois qu'il est vraiment important de comprendre que la santé, c'est une question clé, une question centrale, et qu'on ne va pas certainement transformer les sociétés de façon pérenne si ces personnes ne sont pas saines. Donc, l'agenda l'après-2015, sera certainement un agenda qui va tenir compte de la santé. C'est impossible. L'Afrique représente 25% du poids de la maladie dans le monde. Je ne vois pas comment les Africains vont aller sur un agenda pour l'après 2015 sans appuyer la place de la santé, sans faire en sorte que la santé des enfants, des mères continue à être une réalité. Et ça, je crois que...
Oui. Le fait qu'on s'intéresse beaucoup maintenant au problème du réchauffement climatique, qu'on cherche de l'argent pour financer la lutte contre le réchauffement climatique et le développement durable, vous pensez que ça risque d'empiéter sur les budgets en matière de santé ?
Que le sida ne soit plus, ou la santé ne soit plus une priorité, c'est ce que vous indiquez.
Oui, moi je crois que ce qu'il faut se dire surtout, c'est qu'on a beaucoup appris avec la lutte contre le sida. Il y a quelques années de cela, on parlait de quoi ? 200 millions de dollars pour combattre cette maladie. Aujourd'hui, on a 19 milliards dollars. Chaque année, on me disait « Oh, il n'y aura plus d'argent ». Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu complètement une prise en charge par les pays. Donc, moi, je vois aujourd'hui un autre type d'espoir. C'est-à-dire que de plus en plus, les pays commencent à se prendre en charge. Les budgets domestiques, pour la première fois, sont supérieurs, je dis bien pour la première fois, aux fonds qui viennent des donateurs dans la lutte contre le sida. On voit un pays comme l'Afrique du Sud qui était complètement dépendante. C'était le déni total. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud investit 2 milliards de dollars par an. C'est la deuxième nation au monde qui investit sur la lutte contre le sida. Donc, moi, je voudrais dire que ce qu'il faudrait, un, c'est plus de ressources domestiques. Deux, une responsabilité partagée grandissante, c'est important. Mais il faut aller vers des ressources qui soient innovantes.
Et le Fonds mondial pour la santé, vous estimez qu'il est en mesure de répondre aux demandes? Il y a beaucoup de critiques de pays qui sont très dépendants de ce Fonds mondial pour la santé et qui estiment que les décaissements sont lents, ne sont pas assez efficaces, enfin que la structure elle-même ne suffit pas.
Mais moi, je crois que, bien sûr, qu'il y a énormément de choses à améliorer sur le Fonds mondial. Mais il faut dire quand même merci qu'on ait eu un Fonds mondial. Sans le Fonds mondial, on ne serait pas là avec 14 millions de personnes sous traitement. On n'aurait pas transformé cette approche dont je mentionnais tout de suite, avec aujourd'hui une responsabilité de plus en plus partagée, une feuille de route de l'Afrique qui existe pour se prendre en charge, une augmentation de 150% des budgets africains. Ce ne serait pas produit. Et aussi la France, merci, parce que la France est deuxième financier du Fonds mondial. Donc ces critiques sont importantes, mais je pense quand même qu'on peut améliorer ces dimensions-là. On s'est rencontrés à Dakar et à Bamako avec les ONG et la société civile pour voir un peu comment on peut avoir plus de flexibilité.
Mais c'est bien, on a parfois le sentiment, quand on suit l'actualité au quotidien, qu'on parle moins du sida et qu'on parle de nouvelles menaces. Je pense notamment, vous êtes africain, vous êtes malien, à ce qui se passe actuellement autour d'Ebola. Est-ce que c'est une menace qui pourrait être du même type? Est-ce que pour l'instant, c'est quelques milliers de morts en Afrique de l'Ouest, est-ce que l'on se dit, tiens, ça pourrait être au fond une pandémie de même nature si on n'est pas attentif?
Moi, je pense que c'est un virus qui est très dangereux. Il faut être réaliste, il tue à plus de 50%, donc aussi le profil de cette épidémie me fait peur. Moi, je me rappelle, il y a de cela à peu près 30 ans, lorsque nous avons eu les premiers cas, que ce soit en Ouganda, quand j'étais représentant de l'UNICEF, ou que ce soit au Zaïre de l'époque, donc la République démocratique du Congo d'aujourd'hui, c'était une épidémie qui se cantonnait dans des zones bien précises. Le profil change aujourd'hui, on voit un mouvement vers les villes, et cela me fait peur. Et deuxièmement, je pense que ça me rappelle un peu le début de l'épidémie du sida, quand il y avait la peur, il n'y avait pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments, on ne sait pas bien quoi faire, et l'absence de coordination, pas de communication rapprochée. Mais ce qui est encore plus triste, c'est qu'après 40 ans, on se retrouve à rechercher quelques sérums venant du Nord. Il faut que l'Afrique se prenne en main, que l'Afrique fasse en sorte qu'on puisse faire émerger des centres de recherche d'excellence.
Qui sont au Nord, comme on disait, des médicaments.
Et bien sûr. Et moi, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on est en face d'un échec de la gouvernance globale en matière de santé. Après 50 ans, on a un docteur pour 90 000 personnes en Sierra Leone, un docteur pour 45 000 personnes au Libéria, un docteur pour 10 000 personnes. Il faut nécessairement qu'on repense cette
un système de santé à la mesure des nécessités en Afrique. Sandrine.
Concrètement, M. Sidibé, comment tout ce que vous avez appris sur l'épidémie de sida en 35 ans peut bénéficier aujourd'hui ou pourrait bénéficier à la lutte contre Ebola ?
Moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment tiré les leçons. Parce qu'on a formé des milliers des dizaines de milliers de journalistes comme vous sur le sida. Et un peu partout en Afrique, on peut les mobiliser. On peut faire en sorte que ce réseau devienne rapidement actif. On a fait un effort incroyable pour coordonner les efforts des différents acteurs. Et on a fait émerger une société civile. On peut utiliser des communicateurs traditionnels qui existent. Donc moi, je crois que ce qu'il faut surtout faire aujourd'hui, c'est un, le leadership est clé. C'est un leadership décentralisé à tous les niveaux. Je l'ai vu au Mali quand j'ai été avec Margaret Chan au Mali. Et le président m'a dit, ce n'est pas seulement une question de responsabilité, c'est un devoir. Quand il y a cette responsabilité au plus haut niveau qui se décentralise, c'est important. Deuxièmement, il faut vraiment une coordination forte. On ne peut pas aujourd'hui être dans une situation qui me fait peur. On est en Sierra Leone avec la Grande-Bretagne, on est au Libéria avec les États-Unis, on est en Guinée, au Mali avec la France. Merci. Mais je pense qu'on doit coordonner les efforts pour faire en sorte que les pays soient, bien sûr, capables de prendre en charge progressivement ce genre d'efforts.
Et il faudrait presque inclure l'Ebola dans le Fonds mondial ou ça,
mais vous voyez, c'est encore l'échec de l'architecture que nous avons aujourd'hui. Nous avons attendu combien de mois pour avoir quelques sous? Alors que si on avait un fonds de la santé, un fonds mondial de la santé, pas seulement un fonds mondial du sida, de la tuberculose, on aurait pu agir rapidement, on aurait pu amener un conseil d'administration, prendre la décision et faire en sorte qu'on puisse mettre ces fonds à la disposition. Mais il faut plus que ça, il faut un fonds africain pour la santé. Il faut des équipes de réaction rapide en Afrique aujourd'hui. On ne peut plus attendre que ces équipes viennent du Nord.
Sophie Madibo.
Est-ce que le problème n'est pas non plus du côté de l'industrie, des industries du médicament, puisque vous signalez tout à l'heure un aspect positif des pays émergents qui se prennent mieux en charge eux-mêmes. D'un autre côté, ce qu'on voit, c'est que l'Inde produit 80% des médicaments qui sont utilisés donc notamment en Afrique. Pourquoi l'Afrique ne produit pas ces médicaments?
Moi, je crois que Sophie, c'est un débat que je mène depuis que j'ai été à la tête de l'ONU-SIDA. Il faut que l'Afrique produise son médicament.
Pourquoi
il y a une absence de coordination. Il y avait une absence de vision continentale. Et aujourd'hui, je pense que c'est compris. On a, comme je le disais, 25%. Et donc, du poids de la maladie est en Afrique. Et aujourd'hui, je dis bien, moins de 1% de la dépense sanitaire mondiale s'effectue en Afrique. Et on, les médicaments que nous consommons, moins de 2% de ces médicaments sont aujourd'hui produits en Afrique. Donc, il est important qu'il y ait des transferts de compétences, que l'Afrique commence à songer à l'infrastructure humaine dont je parlais, qu'on ait une agence de coordination du médicament pour l'Afrique. Parce que sans l'harmonisation, c'est très difficile d'attirer les capitaux. Mais l'Afrique doit nécessairement avoir des pôles d'excellence de production du médicament.
Il manque quoi ? L'argent, les chercheurs, la volonté politique ? Qu'est-ce qui manque en Afrique ?
Moi, je pense que ce qui nous a manqué surtout, c'est la volonté politique d'aller vers des nouveaux espaces et considérer que cette façon d'attendre que l'idée soit créée d'ailleurs et que nous puissions... Je crois qu'il faut mettre fin à cela. Et on le voit un peu partout aujourd'hui, cette réaction. Vous prenez un peu, que ce soit, je dirais même en Afrique du Sud, où on commence maintenant à produire le médicament le moins cher, mais moins cher qu'en Inde, à $80 les deuxièmes lignes. Donc on a... mais il faut qu'il y ait une coordination, qu'il y ait des pôles d'excellence et qu'on puisse travailler avec les firmes aussi, et que ça soit
les
jeux du Nord ou
les labos médicaux mondiaux jouent le jeu.
Je crois qu'il n'y a plus de choix. Aujourd'hui, on a quand même, qu'on le veuille ou non...
Elles ont défendu leur brevet, elles ont défendu
oui, parce qu'ils ont...
Le patrimoine.
Rappelez-vous qu'il y a quelques années de cela, d'abord le médicament a pris 10 ans avant... qu'on puisse le donner aux pauvres, mais c'était à Pretoria lorsque la société civile a vraiment s'est battue contre 39 firmes pharmaceutiques pour faire en sorte que le médicament, le générique soit possible. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est pas là la question. La question c'est que l'Afrique doit nécessairement produire son médicament. L'Afrique doit avoir un autre type de partenariat, que ce soit avec les pays émergents, que ce soit avec les firmes pharmaceutiques, pour faire en sorte que cela soit possible.
Mais alors on n'arrivera pas, comme vous le dites, ça a été une bataille pour que les génériques soient possibles. On n'y arrivera pas sans outils de contrainte. Est-ce que ce n'est pas du côté des Nations Unies d'imposer des règles nouvelles pour que les pays qui en ont le plus besoin puissent produire eux-mêmes leurs médicaments ?
Moi je crois qu'il faut aller vers un débat plus ouvert. C'est très difficile d'imposer. Il faut arriver aujourd'hui. Et puis, c'est tellement complexe ce qu'on voit aujourd'hui. La plupart des firmes pharmaceutiques, par exemple en Inde, ne vont plus continuer même à produire le médicament sur le sida. Ils vont aller sur des médicaments plus intéressants. Aujourd'hui, vous avez l'hépatite C, qui coûte extrêmement cher, que ce soit chez vous ou que ce soit aux États-Unis. $86,000 aux États-Unis. Je crois que vous l'avez négocié autour de $15,000 en France. Mais c'est des médicaments qui coûte très cher. On a plus de 200 millions de personnes qui ont l'hépatite C. Donc, aujourd'hui, il faut aller vers un dialogue entre les pays émergents, les pays développés et l'Afrique. L'Afrique constituera, qu'on le veuille ou non, un grand marché sur le médicament. On ne parle plus de soigner des millions aujourd'hui. On parle comment faire en sorte que le médicament soit mis à la disposition de milliards de personnes. Donc, c'est un débat très important pour le futur. Est-ce que le médicament, dans certains cas, doit devenir un bien public ? Voilà votre question. Donc, il faut se battre pour ça. C'est une question de justice sociale, de redistribution des opportunités.
Justement, quand on regarde en 35 ans donc, de sida, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire mieux ? Est-ce que la mobilisation a été, vous diriez, trop tardive ? Est-ce que les moyens sont venus de façon trop différée ? Est-ce que ce sont les mentalités qui ont bloqué ? Pourquoi est-ce que, dans l'histoire de l'humanité, cette maladie, ce syndrome, restera comme un point majeur ?
Non, moi je pense que c'est un mélange d'un peu de tout cela. C'est-à-dire, d'abord, il y a une conspiration du silence. Les gens avaient tellement peur et les politiques se sont engagés assez timidement, surtout dans les pays du Sud. On a eu peur, on ne savait pas quoi faire. Mais il y a eu aussi, moi je crois qu'on le veut oui ou non, les difficultés parce que la nature du virus... Il fallait découvrir le virus. Ça nous a pris du temps pour avoir le médicament. Et le médicament, comme je le disais, lorsqu'on l'a eu au Nord, et vous rappelez, la France a joué un rôle important.
On disait les médicaments sont au Nord, les malades sont au Sud.
Donc ça a été, il y a eu un changement profond parce qu'il y a une société civile qui a émergé et qui a porté tout ce discours-là. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que c'était une aventure magnifique, unique, de transformation politique
et en même temps qui nous a permis de porter les voix.
On a parlé à plusieurs reprises dans l'émission d'aventures magnifiques en parlant du sida. On peut être surpris par l'expression « l'humanité a appris quelque chose et plus forte, sera plus forte quand elle sortira du sida ».
Ah oui, moi je suis persuadé. On n'aurait jamais eu cette mobilisation autour des personnes qui sont laissées pour compte. Vous parliez des personnes qui s'injectent la drogue. Vous parliez par exemple des travailleuses du sexe, les hommes qui ont... On n'aurait même pas pu ouvrir ces chantiers-là. Mais aujourd'hui, on est prêt à aller vers ce combat-là. Et la maladie nous a aidés à aller vers ça. Et puis, imaginez-vous, on avait 18 comprimés pour les malades il y a quelques années. On a un comprimé aujourd'hui. Mmh. On aura bientôt peut-être une injection tous les 6 mois. C'est des victoires extraordinaires.
Ce que l'on comprend aussi, c'est que ce sont des milliards de dollars qui sont en jeu, qui sont dans les circuits, et il y a le phénomène de la corruption qui persiste. Est-ce que ce n'est pas ça maintenant aussi le frein pour faire que le patient au bout de la chaîne reçoive le traitement comme il faut, que les tests de dépistage aillent jusqu'au bout, etc. Est-ce qu'il n'y a pas le phénomène de la corruption encore qui gangrène le développement des systèmes
de santé ? Vous savez, la corruption, elle existe. Et on ne peut pas nier qu'il n'y a pas de corruption. Mais moi, je crois que il y a eu de plus en plus d'efforts. Il y a une pression de la société civile qui fait qu'il y a une demande qui a complètement changé la nature des relations. Aujourd'hui, on a de plus en plus un effort, que ce soit en Éthiopie par exemple, avec la formation de plus de 36 000 agents de santé communautaire avec l'argent du SIDA, qui fait qu'aujourd'hui, on a une demande, on a un dialogue communautaire qui s'est établi. Et moi, j'étais à Bamako lorsque la société civile se demandait au Fonds mondial de changer ses mécanismes. Donc, je pense qu'on a arrêté là où ce n'était pas possible. Les pays qui n'ont pas géré les fonds du Fonds mondial ont été obligés de rembourser et on a arrêté, bien sûr, l'allocation des ressources dans certaines conditions. C'était difficile, mais je crois que la transparence, on y tient. Mmh.
Je voulais revenir sur un défi qui me semble scientifique, qui est celui du vaccin, parce que vous soulignez à juste titre les progrès des tests de dépistage, des traitements.
Oui.
Est-ce que là, quand même, il n'y a pas un nœud qui, au-delà des problèmes financiers et d'organisation, reste une énigme médicale?
Ah oui, moi je crois que le vaccin n'est pas facile. Comme on le sait, il y a eu énormément d'efforts pour essayer de trouver un vaccin. Mais chaque fois qu'on s'approchait du vaccin, il y a quelque chose qui se passait qui faisait qu'on s'éloignait.
La France dit qu'elle a un candidat vaccin, enfin un labo français dit qu'il y a un candidat vaccin.
Je suis preneur demain matin parce qu'on veut mettre fin. Ah, et oui. On sait que le vaccin est l'une des voies. Mais je sais qu'aussi, la cure fonctionnelle peut être certainement plus facile dans les années
justement,
à venir.
Michel Sylvie, est-ce qu'on peut imaginer qu'on éradique cette maladie un jour, dans 15 ans, sans avoir jamais trouvé le vaccin?
Moi, je crois que ce sera difficile d'éradiquer, mais on contrôlera l'épidémie. Ce ne sera plus un problème de santé publique. Mm-hmm. Il y aura bien sûr le VIH, mais la maladie, elle sera contrôlée.
Est-ce que quand on dit ça, c'est qu'on n'encourage pas à lever le pied sur les efforts faits pour trouver le vaccin?
Non, moi je crois que c'est l'inverse. Il faut se battre pour pousser qu'il y ait de la recherche. La recherche, il faut continuer, il faut faire en sorte que le vaccin soit possible. Il y a énormément de groupes qui travaillent, comme par exemple en France et ailleurs. Mais je voudrais dire quand même qu'entre-temps, on a des outils. Le médicament réduit de 96%. Et on a encore 15 à 17 millions de personnes qui attendent ce médicament. Alors, battons-nous pour que ces personnes-là aient accès aux médicaments et que ces personnes-là ne transmettent plus et que ces personnes vivent avec nous et que ces personnes puissent contribuer. Moi, je suis convaincu que chaque fois qu'on a exclu, on a perdu.
Michel Sidibé, je le rappelais, vous êtes malien, secrétaire général adjoint de l'ONU, patron de l'ONU SIDA. Sur le continent africain, dont on parle beaucoup, qui est touché par cette pandémie, il y a en même temps une réalité terroriste qui touche d'ailleurs le nord de votre pays, le Mali. Il y a Boko Haram dans d'autres pays. Il y a une pauvreté. Est-ce que ce n'est pas ce terreau qui fait que finalement, au-delà même de la recherche médicale, le sida reste un fléau sur ce continent?
Moi, je crois que c'est une question pertinente. Moi, je suis persuadé qu'il est temps de faire la différence entre la défense militaire, qui est certainement très importante, et la sécurité humaine. Et tant qu'on ne va pas faire un effort pour donner l'éducation, pour faire en sorte que la santé soit là, pour faire que les, en sorte que ces jeunes filles ne soient pas victimes de violences sexuelles parce qu'elles sont prises en otage par leur statut social, pour faire qu'il y ait une justice sociale plus grandissante. Et bien sûr qu'on voit qu'il y a de la croissance qui se crée un peu partout en Afrique, mais il faut que cette croissance-là soit de qualité et que cette croissance-là puisse permettre d'atteindre les plus démunis. Et comme je le dis souvent, on ne peut pas bien sûr redistribuer de la pauvreté, c'est clair. Mais lorsqu'on a de la croissance, il faut qu'on arrive à redistribuer.
Oui, parce que quand il y a conflit, il y a eu, on l'a vu il y a quelques temps, par exemple, même dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les traitements, il y avait pénurie de traitements du fait du conflit. Donc les gens qui arrêtent leur traitement, ça les replonge dans la maladie. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une continuité du côté de l'accès aux soins?
Non, moi je crois que, et c'est pas seulement, j'ai été en République centrafricaine, j'ai été à Bossangwa, donc en dehors de Bangui, j'ai vu comment en définitive tous les réseaux qui existaient, qui permettaient aux gens d'avoir accès au traitement, disparaissent du jour au lendemain. Donc pour moi, regardez ce qui se passe aujourd'hui au Libéria, ou bien même en Sierra Leone. J'étais en Sierra Leone, un pays qui avait 14% de croissance il y a seulement 2 ou 3 ans. Regardez, avec une crise sanitaire telle que Ebola, aujourd'hui, on risque, la Banque mondiale nous dit, il y aura un impact économique de plus de 4 milliards, 5 milliards sur ces 3 pays-là. Et c'est pas seulement un problème économique, c'est un problème social, c'est un problème de stabilité. Donc moi, je crois que cette question de sécurité humaine, j'y tiens. Je pense fondamentalement qu'on ne peut plus continuer à croire qu'on va stabiliser nos économies si on ne donne pas... il faut même plus qu'une justice sociale, il faut une mobilité sociale. Il faut que les gens puissent progresser, que les gens puissent venir des quartiers populaires où j'étais, où les gens partaient à l'école sans chaussures et qui se retrouvent directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Cette mobilité sociale peut permettre de créer de l'espoir et changer complètement la nature de nos relations.
Parce qu'il y a un blocage des sociétés.
Moi, je pense qu'il faut une obligation de résultat pour les plus pauvres. Il ne s'agit pas d'être élu seulement démocratiquement, mais il faut gouverner démocratiquement. Il faut de la transparence, il faut le partage.
Moi, elle n'est pas à l'œuvre partout en Afrique.
Mais vous savez, le grand problème que le monde a aujourd'hui, c'est cette inégalité grandissante des États-Unis en Afrique. Il faut une société un peu plus équitable. Si on ne l'a pas, la maladie, on ne pourra pas la combattre. Et si les gens sont pas... Et puis je le dis encore, il faut investir dans l'infrastructure humaine, il faut investir dans les idées. Et l'Afrique régorge de gens bien formés.
Mais Michel Sidibé, dans ce cas-là, on ne vous dit pas, quand vous rencontrez un certain nombre de dirigeants qui ne sont pas des modèles démocratiques, occupe-toi de la maladie, occupe-toi de la pandémie et t'occupe pas de gouvernance, c'est pas ton domaine, dirait-on au secrétaire général adjoint de l'ONU que vous êtes.
Non mais c'est grave. Parce que le premier reflet d'une bonne gouvernance, c'est une bonne santé, une bonne éducation et des jeunes qui peuvent avoir de l'espoir pour transformer leur nation. Donc, je pense que je ne l'accepterai pas.
Une évaluation a été faite et on a recommandé de mettre 15% du budget dans la santé. Et on en est encore très loin. Dans la plupart des pays, c'est maximum 4%. Qu'est-ce que vous pensez? Ça veut dire que les leaders politiques ne sont pas convaincus?
Moi, je crois qu'il y a un problème de fond. On n'a pas compris, dans la plupart des cas, que en définitive, la santé, c'est un investissement. On a toujours cru que c'était un coût, une dépense. Et il faut qu'on se sorte de là. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone. Et si on, tant qu'on considère...
Quels sont ceux qui ont respecté cette
limite? La plupart des pays, par exemple, l'Afrique australe, ont augmenté, le Rwanda... ont pu atteindre au moins 10 à 12%. Et je crois qu'il faut continuer à pousser pour qu'on puisse comprendre que la santé, c'est un investissement.
Michel Sidibé, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif d'ONU-SIDA, secrétaire général adjoint de l'ONU. Vous vous battez contre cette pandémie. Merci pour ces mots d'espoir. Hein. Vous dites en gros, dans une quinzaine d'années, le monde pourrait vivre sans SIDA. Nous vous réinviterons bien avant pour faire le point de cette évolution. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et excellente suite de programme sur les différentes antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde.
Merci. RFI, la radio du monde.